Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce 22 avril 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc on a un sujet principal super intéressant aujourd'hui, mais avant de rentrer dans ce sujet-là, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qui a retenu ton attention sur les marchés depuis la dernière semaine?
Bien, toujours les allers-retours entre la paix et pas de paix au Moyen-Orient. Là. Donc hier soir, on a annoncé un prolongement du cessez-le-feu, donc ça devrait favoriser les marchés. Ce matin, les contrats à terme sur indices boursiers sont à la hausse. On a un marché en deux temps cette semaine. On a le TSX au Canada qui a reculé de 0,7, surtout en raison des secteurs des ressources sur notre indice. Le pétrole, les matières premières ont reculé. Bon, le pétrole, on n'est pas surpris. Là, si la tension diminue un petit peu au Moyen-Orient, le prix du pétrole baisse et nos producteurs de pétrole au Canada baissent aussi. Par contre, le secteur financier a été très, très fort là, cette semaine. Entre autres, BMO, Royal, TD, que nos clients détiennent, tous des sommets historiques hier. Ils ont finalement terminé la journée un peu en baisse, là, mais ils ont touché un sommet historique hier, tous les trois. Du côté américain, par contre, ça va très bien. Nouveau sommet historique sur les marchés, le S&P 500 a même touché le 7126 avant-hier. On est en hausse de 1,4 cette semaine. Le Nasdaq, 24500 au sommet. On est en hausse de 2,6 cette semaine. Ça porte les hausses là, du côté américain. Le Nasdaq, depuis le début du mois, 12,4. C'est pas rien. Là. C'est la plus haute hausse depuis avril 2020, là, le rebond de la COVID là, qui avait été très, très rapide. Le S&P 500 hausse de 8,2%. Pourquoi ça rebondit tant que ça? Ben, on est dans la saison des résultats financiers. On dit là, en anglais « stocks follow earnings ». Donc, quand les bénéfices des entreprises augmentent, ben, le prix des actions généralement augmente. On avait commencé l'année autour de 23 fois les bénéfices. Là, je viens de vous dire qu'on vient d'atteindre des nouveaux sommets historiques sur les indices. Par contre, le marché se transige maintenant à 20,9 fois les bénéfices. Donc, moins cher aujourd'hui qu'il l'était en début d'année, même si on est à des sommets. Pourquoi? Parce que les bénéfices sont en hausse de 13,2% jusqu'à maintenant. Donc, on a 88% des compagnies qui ont rapporté les résultats ont dépassé les attentes. Autant au niveau des bénéfices, 84% au niveau des revenus bruts. Donc, tu sais, c'est pas juste on squeeze les marges pour essayer de faire plus de profit. C'est vraiment le chiffre d'affaires de la compagnie qui augmente et qui performe très bien. Donc, ça, pour l'instant, ça va bien. On continue de se croiser les doigts qu'au niveau géopolitique, ça continue de se calmer un peu. Ça va favoriser la croissance des marchés, mais en général, ça se passe bien.
En tout cas, on n'aurait pas dit autant le mot géopolitique sur notre balado depuis toutes ces années-là qu'on le fait. Merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, nous avons invité un de nos collègues qui était venu enregistrer à pareille date l'an dernier pour discuter de transfert d'entreprise. Guillaume Lalonde, coach en transfert d'entreprise chez Gestion de patrimoine Desjardins, nous propose aujourd'hui de réfléchir aux 6 questions essentielles à se poser pour réussir son transfert d'entreprise. C'est sûr qu'un transfert d'entreprise réussi ne repose pas seulement sur une valorisation ou sur une fiscalité optimisée. Il repose d'abord, ou du moins c'est ça que Guillaume nous dit, sur la qualité des questions qu'on se pose idéalement dès aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons prendre un pas de recul pour explorer ces 6 questions fondamentales qui permettent aux entrepreneurs de structurer leur réflexion, de réduire les angles morts et de mieux préparer la continuité de leur entreprise. Donc, si vous connaissez un entrepreneur dans votre vie, même si vous ne l'êtes pas, envoyez-lui ou elle cet épisode. Bonjour Guillaume et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous deux, c'est un réel plaisir d'être présent.
Donc, on va commencer par la première question que tu as proposée et sans doute la plus profonde et pourtant qu'on se pose le moins souvent. Pourquoi? Donc, c'est quoi la motivation derrière le transfert d'entreprise?
Tout à fait, là, le fameux why, là, le pourquoi. Moi, je trouve que c'est la boussole du projet de transfert d'entreprise. Là, ça sert vraiment de repère pour nos entrepreneurs lorsqu'ils doivent prendre souvent des décisions qui peuvent être difficiles. Si cette boussole-là n'est pas claire dès le départ, toutes leurs décisions qui ensuite là, deviennent soit plus lourdes, ça peut être même plus lent pour exécuter. On me demande souvent, là, c'est quoi les questions clés liées au pourquoi? Qu'est-ce qu'un entrepreneur devrait se poser comme question reliée au fameux why? Je leur pose souvent la question de pourquoi voulez-vous vous retirer? Pourquoi assurer la continuité de l'entreprise? L'aspect de pérennité est très fort chez nos entrepreneurs. Pourquoi vous voulez protéger votre équipe? Pourquoi vous voulez garder l'entreprise dans la famille? Pourquoi vous voulez maximiser la valeur? Pourquoi vous voulez préparer une nouvelle étape de vie? Donc, c'est vraiment des questions là, de base, mais qui permettent de bien structurer une réflexion pour son futur plan de transfert. Si je peux vous donner un exemple, dans l'intervalle d'un mois, là, j'ai eu deux propriétaires d'entreprises TI qui voulaient transférer d'ici les prochaines années. En creusant le pourquoi avec eux, il y en a un qui était vraiment lui en mode plus maximisation de valeur. Donc, il voulait avoir le meilleur prix pour un acheteur externe. Et le second entrepreneur, lui, voulait vraiment préserver la culture de son entreprise. Donc, je trouve que cet exemple-là, ça illustre que deux entreprises du même secteur d'activité peuvent avoir deux pourquoi complètement différents. Puis souvent, copier son voisin, c'est pas souvent la meilleure stratégie, si vous me permettez l'expression.
Ben, puis je pense que c'est un bon truc dans la vie, se poser la question pourquoi.
Pourquoi je veux réellement faire ça?
Ouais, exactement, exactement. C'est des bonnes habitudes de vie. La prochaine question, c'est le facteur temps. Donc, quand en transfert d'entreprise, le bon moment, je crois, n'arrive pas par hasard et se construit. Trop tôt, la relève n'est pas prête. Trop tard, le cédant a plus de difficultés à lâcher prise ou la valeur commence à diminuer. Qu'est-ce
Tout
que
à
tu...
fait, Sarah. Même je mentionne souvent à nos entrepreneurs de voir le camp un peu en quatre horizons. Donc, le moment vraiment du début de la réflexion, le moment de vraiment commencer à préparer son transfert via son plan de transfert d'entreprise, le moment là, plus de la transaction, donc le transfert de la propriété ou de la direction de l'entreprise simultanément, et la phase de transition qui mène à un retrait complet de notre entrepreneur au fil du temps. Comme tu as dit, Sarah, là, le bon moment, ce n'est pas simplement une date qu'on peut mettre dans un calendrier. Par exemple, le 1er janvier 2027, je veux absolument me retirer. Mais c'est un alignement entre une bonne préparation pour notre cédant, la crédibilité de la relève, une solidité aussi de l'entreprise. Souvent, l'entreprise n'a pas de voix, donc c'est important de faire une bonne analyse de l'entreprise avec ses capacités, les aspects financiers, les aspects fiscaux, les aspects successoraux aussi de notre entrepreneur, la capacité aussi de faire une transition qui est graduelle puis qui comporte aussi les partenaires de l'entreprise. Donc, le bon timing, c'est rarement quand un entrepreneur me dit c'est quand je vais être prête, c'est sûr qu'on le challenge un peu plus sur il faut avoir un plan concret puis se mettre quelques échéanciers selon une ligne du temps, là. Si vous me permettez aussi rapidement, j'aimerais ça mettre l'emphase quand on parle du quand. Souvent, la réponse la plus populaire que j'ai auprès de nos entrepreneurs quand je leur pose la fameuse quand est-ce que vous voulez soit commencer à vous retirer ou réaliser votre transfert d'entreprise, ils me sortent spontanément environ 5 ans. Donc, moi, je trouve souvent que cette réponse-là, il manque un peu de commitment pour nos entrepreneurs quand ils sortent la fameuse 5 ans. Ça se peut que ça soit vrai 5 ans, mais je reviens encore sur une fameuse donnez-vous une ligne du temps avec des étapes concrètes, puis ça va être plus réaliste votre projet de transfert.
Puis là, la prochaine question, ben, à qui je vends ça? Comment j'identifie la relève, les scénarios?
Tout à fait, Martin. Puis le qui, ça peut être vraiment un peu qui est autour de ma table présentement, mais qui manque aussi peut-être autour de la table pour mon projet de relève. Puis je vais mettre l'emphase surtout le qui manque dans mon projet de relève d'entreprise. Donc, la réflexion, elle peut s'approfondir autour de c'est qui mon équipe d'experts qui m'entoure. Donc, mon gestionnaire de patrimoine, ça peut être aussi en termes légaux, fiscaux, etc. Mon directeur de compte, ça peut être aussi qui veut réellement reprendre l'entreprise, qui est capable, qui influence la décision du projet de transfert, qui qu'on doit rassurer aussi, parce que ça aussi, c'est une bonne. Ça peut amener quelques complications dans le projet de transfert. De mon expérience, un transfert d'entreprise, ça échoue rarement à cause uniquement des chiffres. Là. Ça échoue souvent parce que les rôles ne sont pas clairs, les attentes ne sont pas claires, les pouvoirs non plus ne sont pas clairs. Dernièrement, on a accompagné une relève familiale dont le propriétaire, ses deux enfants, travaillent dans l'entreprise. Lui, naturellement, il croyait que l'aîné allait reprendre les rênes au fil du temps, mais quand on a challengé un peu la relève, lui, ses ambitions étaient complètement ailleurs. C'est là que ça illustre, je trouve que la communication est importante, d'avoir le plus tôt possible dans le processus pour avoir des attentes réalistes, un scénario réaliste, éviter les non-dits. Voilà,
quand,
Martin.
Puis quand on pense à qui, on pense aussi à des coachs en transfert d'entreprise, hein, Guillaume? Donc, t'avoir à la table pour poser ces questions-là et avoir cette discussion-là puis cette réflexion-là avec l'entrepreneur. Donc, pour nos clients, si vous connaissez quelqu'un, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de les accompagner.
Mais Guillaume, il ne fait pas juste du podcast, là, il répond bien aux clients.
C'est ça.
Puis la question semble évidente pour les gens, mais qu'est-ce que je transfère au juste? Moi, je veux vendre ma business. Là. Je transfère quoi au juste?
Mm-hmm. C'est sûr que quand on parle du quoi, là, c'est assez fondamental pour tout ce qui est montage du projet de transfert d'entreprise, le prix, le niveau de risque. Est-ce qu'on transfère les actions, les actifs, l'immobilier? On a plusieurs entrepreneurs là, qui possèdent, oui, une compagnie opérante, mais un immeuble. Donc, est-ce qu'on doit séparer ces deux activités-là? Au niveau même des opérations, est-ce qu'il y a peut-être un ménage à faire? Donc, dernièrement, j'ai rencontré une entreprise que c'était un commerce de détail avec une bonne superficie en termes de pieds carrés, mais faisait aussi de la distribution plus B2B. Donc, est-ce qu'on garde ce mix-là de ces deux activités-là ou on les sépare puis on y va plus pour des acheteurs stratégiques selon ces secteurs-là? Donc, c'est des bonnes questions à se poser. Au niveau même de la clientèle dans la même veine, est-ce qu'il y a un ménage à faire au niveau des clients en termes de rentabilité, le type de client, le savoir-faire du fondateur? Si beaucoup de décisions qui est pris par celui-ci, est-ce qu'on doit commencer à mettre un plan de transfert des connaissances en place, etc. Donc, une façon vraiment de structurer, puis ce que je dis à nos clients, voyez ça un peu en 5 blocs. Donc, qu'est-ce qui touche la propriété, les opérations, les actifs stratégiques, les relations clés que l'entreprise possède, les connaissances critiques du fondateur. Donc, avec ces cinq blocs-là, c'est vraiment un bon outil de départ pour bien cibler le quoi. Et vraiment, l'exemple classique là, dans le quoi, c'est en termes d'immobilier. Là, même dernièrement, on a accompagné une transaction, puis l'élément de l'immeuble, est-ce qu'il est inclus ou non dans la transaction, est arrivé beaucoup trop tard dans le processus. Lui, le vendeur, était convaincu que c'était un package. L'acheteur voulait juste les opérations. Donc, ça peut créer des frictions. Ouais.
Absolument. Et la prochaine question, combien? Donc, la valeur versus la réalité. Puis ça, je pense que ça doit arriver assez souvent, Guillaume.
Ben oui, tout à fait, Sarah. Nos entrepreneurs confondent souvent les trois notions de valeur marchande, le prix payé, puis vraiment la capacité que les repreneurs peuvent avoir en termes de financement. Donc, trop souvent, les cédants, nos entrepreneurs, ils regardent l'entreprise via son histoire, les sacrifices qu'ils ont faits, les années investies. Lui, le repreneur, est un peu plus le regard vers l'avenir, donc les flux de trésorerie que l'entreprise génère, les risques, la capacité de remboursement, son potentiel de croissance. Donc, la vraie question, ce n'est pas combien ça vaut, mais comment, combien c'est finançable, combien on souhaite recevoir dès maintenant, est-ce qu'il y a une balance de prix de vente importante, des clauses d'ajustement de prix du type earn-out. Donc, voilà pour le combien.
Oui, c'est pas toujours évident. Les gens se font leur propre idée dans leur tête. Ils disent « Ah, ça vaut ça. » Ouais, non, ça vaut ce qu'un acheteur est prêt et capable de payer aussi. Puis pour que la transaction se fasse, pour que les deux se rencontrent à un prix quelconque. Là.
C'est un peu comme l'immobilier. Vraiment, ça me fait penser à les transactions de maison, puis notre cœur, puis tout ce qu'on a bâti dans la maison. Puis finalement, peut-être un acheteur n'est pas prêt à payer ça.
Puis en termes de mécanique du transfert, tu sais, comment on fait ça, un transfert d'entreprise? Comment ça se passe?
Oui, on est déjà rendu à la dernière question fondamentale. Le comment, cette mécanique-là, notre approche est vraiment selon trois objectifs. C'est avoir une conscience de continuité de l'entreprise, que la relève soit crédible, puis qu'il y ait vraiment une sécurité financière auprès du cédant. Donc, c'est là que ça met vraiment l'emphase sur l'importance d'être bien accompagné par des professionnels, dont son gestionnaire de patrimoine. Permettez-moi, Martin et Sarah, là, mettre l'emphase sur la méthode du geste successoral. Je trouve que c'est encore une mécanique qui est méconnue et qui peut être pertinente à plusieurs scénarios de transfert. Concrètement, le geste successoral en 15 secondes, là, c'est le propriétaire fige la valeur actuelle de son entreprise en échangeant ses actions ordinaires en actions privilégiées à valeur fixe, pendant que la croissance future est transférée à la relève. C'est une façon d'organiser le transfert dans le temps. On fige la valeur aujourd'hui pour que le cédant, tout en permettant à la relève de bénéficier à la, la croissance future, sans brusquer tout ce qui est transition, perdre le contrôle trop rapidement. Donc, c'est une belle avenue à creuser le jeu successoral.
Ben ça vient fixer la valeur. Donc, ma business a pris du gain. Donc là, je ne veux pas payer de l'impôt indéfiniment. Donc, j'arrête de gagner en valeur sur mon entreprise. Je transfère la plus-value tout de suite, la plus-value future tout de suite à l'acheteur. Mais les actions privilégiées, ben c'est privilégié parce que j'ai le droit de vote. Je peux m'octroyer des droits de vote multiples. Même. Donc, je peux garder le contrôle de la business, mais sans en garder la plus-value, puis finalement, que ce soit moi qui soit taxé dessus. Donc, c'est un peu compliqué pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un bon accompagnement pour faire ça.
Exactement. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon quand même assez rapide aujourd'hui, mais je sais, puis je l'ai testé dans ces deux dernières semaines, tu es super disponible. Guillaume m'a répondu à, je pense, 7h30 le matin. Donc, on sait qu'on peut mettre tes clients ou nos clients en contact avec toi. Desjardins est quand même très fort aussi dans l'espace entrepreneurial au Québec puis au Canada. Donc, faites-nous signe, on peut vous mettre en lien avec Guillaume. Aussi, si vous avez des questions sur votre portefeuille, la diversification ou l'impact du contexte actuel et sur votre situation personnelle, notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, est toujours là pour vous accompagner. À très bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.